Je le dis en baissant la voix, pour m'excuser parce que ce nom leur semble drôle, pour les prévenir que je n'y peux rien. C'est un nom très doux, un nom comme le tien, Aurilla, qui me donne la vie et la force. Je dis aussi les noms que je connais, les villages, les marchés. Ils sont comme les noms de ma famille. Soukleta, Tazar, Elkemia, Ej, Imitek. Je l'ai dit les yeux fermés et je suis près de toi, Aurilla. Même si mon corps est loin du tien, même si mes mains ne peuvent pas te toucher, même si je ne mange pas de ton pain et que je ne bois pas de ton eau. Je vois ton sourire. J'entends le murmure de ta voix à mon oreille quand tu chantes une berceuse pour notre fille que je ne connais pas encore. Je vois l'étincelle de tes yeux, prisonnière de tes paupières pleines de kohl. Je sens le parfum de tes cheveux que tu peignes au soleil du matin, dans la cour des femmes. Je te vois comme autrefois, quand je t'épiais à travers le rideau de la fenêtre de la salle des hommes. Les saisons ont passé, loin de toi, Aurilla, loin de vous, mes enfants. Quand c'est l'hiver, il fait si froid sur les chantiers. Il n'y a que le souvenir de toi, Aurilla, le souvenir de ta voix et de ton regard. Ce sont eux qui me gardent en vie. Pour toi, j'entasse les parpaings de vin. Je coule le béton sur les chaînages rouillés. Je spite les vis dans les membrures des plafonds. Je lisse le plâtre sur les murs. Mon nom est Albelkan. Le nom de mon père est Rebo. Ma mère est Khadija. Le patron Giglione ne peut pas retenir mon nom, ou il ne le veut pas. Il m'appelle Ahmed. Tous les plâtriers s'appellent Ahmed. Quelle importance cela a-t-il? Pour toi, je soulève la pelle, pour toi, je jette le ciment. J'élève les murs de parpaings. Jour après jour, mois après mois, j'élève les murs, je lisse le plâtre. J'ai construit plus de maisons qu'il n'en faudrait pour les familles de Tata. J'ai construit des villes entières. Quand j'aurai économisé assez d'argent, je reviendrai au Ria, et nous ne serons plus jamais loin l'un de l'autre. Le soleil brûle mon corps, le froid écorche ma peau, et le poids des pelletés brise mes membres. Maintenant j'ai l'habitude. Quand je suis arrivée dans cette ville il y a 3 ans, j'étais encore fragile et tendre comme un enfant. J'étais si fatiguée le soir, j'étais si seule que je m'allongeais par terre et que je laissais mes larmes couler de mes yeux. J'habitais une chambre dortoir avec des Noirs et des Tunisiens, au-dessus d'un bar, et la lumière des néons faisait une tache sanglante sur la fenêtre. Il y avait le bruit des autos dans la rue, les voix des hommes ivres qui se querellaient, des femmes qui criaient. Il n'y avait pas d'enfants, pas de douceur. C'est alors que j'ai commencé à invoquer ton nom, Aurilla, et le nom de chacun de mes enfants, et le nom de Tata. C'est alors que j'ai retrouvé le souvenir du jour où je t'ai rencontré, Aurilla, ma femme, dans la grande palmeraie de la rivière, le jour de la fête quand tu étais venue avec le cortège des jeunes filles pour porter le pollen aux fleurs des dattiers. L'air était léger, je m'en souviens bien, la poudre d'or flottait dans le ciel, la vallée résonnait de chants. Quand le cortège est passé devant moi, je t'ai vue, Aurilla, l'étincelle de ton regard est entrée en moi, et elle n'est plus jamais ressortie. J'ai su que tu étais ma femme. Dans l'hiver gris et blanc des chantiers, dans cette ville si loin de toi, le souvenir de ce jour est toujours présent. C'est lui qui me donne la force, c'est lui qui porte ma pelle, c'est lui qui soulève les fardeaux de ciment et de plâtre. Même quand il y a des dimanches vides, les boulevards de poussière, les esplanades de la peur, solitaires et sans enfants, avec la méchanceté des hommes qui cherchent une victime, le souvenir de cette journée dans la vallée des dattiers ne me quitte pas. C'est toi, Aurilla, que je vois. Tu es vêtue de ta robe d'apparat, ton visage et tes mains sont recouverts de l'or du pollen, et l'étincelle de ton regard entre dans mon regard pour la vie.
Wait in the water. Wait. God's gonna trouble the water.
that host all dressed in white.
God's gonna trouble the water.
The leader looks like the Israelite.
God's gonna trouble the water. Who
Fantôme dans la rue, idée d'ami. Il est à son rencoignement, assis le dos au mur. La fille s'est assise à côté de Renaud pour écouter ce qu'il avait à raconter. Moi, j'avais une âme pleine de larmes, un vide, une douleur de fer. Le visage de Renaud est usé, creusé, édenté. Il a le nez fracturé. Il a été attaqué un soir par des voyous. Mais c'était à l'heure où je ne regarde plus rien. Sa peau s'enfonce par endroits, comme s'il avait de la cellulite sur les joues. C'est à cause de l'alcool. Mais ses yeux noirs brillent de jeunesse. La jeune fille s'est assise à côté de Renaud, les jambes repliées pour ne pas tendre d'embûches aux passants. Le dos contre le menton de la porte cochère. Renaud a choisi cet endroit parce que personne n'entre plus par cette porte. L'immeuble a été racheté par une banque qui a muré les étages supérieurs. Mais pourquoi a-t-il choisi la rue du Dragon? Il me semble que j'ai toujours vu depuis que je regarde. Il est arrivé ici il y a des années, quand il a commencé sa vie de clochard. Je ne sais pas comment il s'appelle. Renaud, c'est le nom que la jeune fille lui a donné, quand elle a su qu'il avait travaillé dans une usine. Il lui a raconté qu'il avait autrefois occupé un poste de conseiller aux ressources humaines chez Renault. C'est exactement les termes qu'il a utilisés, les ressources humaines. Mais la jeune fille ne lui a posé aucune question personnelle. Il a cette sorte d'élégance. On n'a pas besoin de savoir qui il est. C'est un être humain, comme je crois l'avoir déjà dit. Qu'est-ce que c'est les couscous tapis? La jeune fille, assez grave pour son âge, un peu voilé comme les gens qui fument trop. Renaud a une voix usée, mais il n'est pas un vieillard. Il a seulement un corps d'une maigreur extraordinaire, fragile, avec des épaules qui saillent sous ses habits, et un pantalon trop court qui montre ses chevilles nues, très blanches, et ses pieds chaussés de mocassins noirs en simili-cuir. Il a de belles mains longues et fines, avec des ongles soignés. On voit bien qu'il n'est pas un travailleur manuel. Il a des cheveux longs, gris, assez propres. Il porte une chapka de mouton noir qui lui vient du temps où il allait chaque matin à l'usine, dans les plaines froides du Nord. Pourtant, les gens qui passent, pour la plupart, font un détour quand ils le voient, comme s'il s'était compissé ou qu'il avait une maladie. La jeune fille est habillée d'un manteau marron. Elle s'est tassée, elle a enfoncé sa tête dans son col comme une tortue. Ses longs cheveux font une nappe noire sur ses épaules. Elle a un air lointain, rêveur. Elle a rejoint Renaud dans son absence au monde. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Le bruit des autos dans la flaque suce les mots, les traînes sur la chaussée mouillée, les emporte loin. Il me semble que cette rue est un canal qui avale les mots sans cesse, les rejette dans un limon mystérieux vers le bas, vers les estuaires des fleuves. Renaud hésite, il prend sa respiration comme s'il allait commencer une longue histoire dont la racine s'entortille loin dans son passé. En ce temps-là, quand je travaillais à l'usine, le gouvernement incitait à l'embauche des ouvriers d'Afrique du Nord. Algériens, Tunisiens, Marocains, et aussi des Africains du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire. C'était moi qui ai été chargé de les engager. On appelait ça exploiter les ressources humaines. J'étais affecté aux ressources humaines. Tu savais ça?
C'était mon boulot à l'usine.
Oh, j'étais bien payé pour ça, pour faire le tri, pour dire à celui-là, toi et toi, et celui-là, non, pas toi. Les yeux un peu fendus, brillants, une expression à la fois douce et calme, un peu embrumée de tristesse et d'alcool. Une tristesse qui reste en lui, qui ne s'en lasse pas aux autres. La jeune fille lui ressemble. Je crois qu'elle a les mêmes yeux, en amande, très noire. De la tristesse sans doute aussi, ça doit être ça, qu'on reconnaît les vrais êtres humains.
Connaissez-vous la fantôme du métro? Elle n'est pas indifférente. Elle est peut-être la première personne humaine dans ce quartier, dans ces couloirs. La jeune fille aux cheveux noirs l'a repérée depuis quelque temps. Peut-être que dans la solitude, on ne voit pas les mêmes choses que les autres. Elle en parle à tous les gens qu'elle rencontre, comme si c'était la personne la plus importante du quartier. Mais ceux qui l'ont vue ne savent rien d'elle, rien que ce qu'on peut imaginer. Ils disent que c'est une pauvre folle dont la vie s'est arrêtée un jour de mai 1958, quand son fiancé Vincent a été tué pendant la guerre, en Algérie, dans un défilé des Aurès, d'une rafale de fusils mitrailleurs. Ils disent qu'elle s'appelle Gabrielle ou Ophélie, qu'elle est russe ou polonaise, qu'elle est riche, qu'elle possède des banques, des comptoirs, des hôtels, et qu'elle vit quelque part dans un beau quartier, au dernier étage d'une tour, avec ses domestiques et ses chats. Ils disent que son fiancé était un élève des Beaux-Arts et c'est pourquoi elle rôde toujours dans les mêmes couloirs de métro, entre le pont Saint-Michel et le jardin de Babylone. Elle ne s'arrête jamais. Elle est tout le temps en train de marcher, de courir, ou plutôt de glisser. Elle est si légère qu'on ne voit même pas le mouvement de ses jambes. Elle semble flotter au-dessus de la chaussée, sans bruit, comme si elle avançait sur les pointes. Elle est là un instant et l'instant d'après elle a disparu, si vite qu'on peut même douter de l'avoir vue. Tard dans la nuit, elle est encore dans les couloirs. Elle s'aventure jusqu'au Montparnasse, ou bien sur les quais du RER du côté du musée d'Orsay. Elle ne va jamais au-delà. C'est comme si une frontière invisible la retenait. Parfois, sur son visage, il y a une expression de souffrance. Et puis cela s'efface. Personne ne lui a vraiment parlé. Personne n'oserait. Son regard est transparent, porté au loin, de l'autre côté de ses murs ou de ses trous noirs. Il glisse sur vous sans s'arrêter. On dirait le regard d'un animal à travers une vitre. Chaque soir, le long des couloirs, le long des quais, rasant les murs, fuyant, glissant, frôlant. Mais nul ne l'a vu au-delà de minuit. Quand minuit s'approche, même à 20 mètres sous terre, elle le sait, elle disparaît. Elle retourne à son domaine, ses banques, ses affaires et son hôtel. Personne ne la voit plus d'une fois chaque jour. La jeune fille aux cheveux noirs la cherche chaque soir. Si elle ne la voit pas, elle s'inquiète. Elle demande aux passants, mais ils haussent les épaules. Il ne la croit pas. Alors elle interpelle un contrôleur sur le quai. Elle essaie de lui expliquer. Grande, élégante, une longue robe en voile claire, un châle, des espadrilles. Elle passe tous les jours sur ce quai. L'homme secoue la tête. Il n'a vu personne. Peut-être qu'il a oublié. Les gens se pressent, se bousculent et il est 6 heures, c'est l'heure de pointe. Allons, ne restez pas là, vous voyez bien que vous obstruez. Personne n'a rien vu. Pour tous ces gens qui sont pressés de rentrer chez eux, la dame en robe claire et en espadrille n'existe pas. Avec la même légèreté qu'elle passe, elle s'efface de la mémoire. Elle est un souffle, un rêve. Elle peut se glisser dans le corps d'un autre ou bien disparaître en suivant les canalisations souterraines. Un soir, elle est ici, le lendemain à 1000 kilomètres. Elle peut se faire invisible. Elle peut entrer dans le circuit des caméras secrètes qui épient la ville d'heure en heure, de rue en rue.
Depuis toujours, elle écoutait le bruit de la mer sur les brisants. À la baie malgache, les vagues sont très proches. Elles s'allongent sur les cailloux noirs si près l'une de l'autre que ça fait un seul fracas doux, sans respiration, un bruit de moteur. Comme le moteur de la pirogue de son père, elle s'en souvient maintenant, même si ça fait des années qu'elle ne l'entend plus. À l'avant de la pirogue, Tommy Sanson avait écrit le nom de sa fille en grosses lettres rouges, Maureen, et le dernier N avait coulé en formant quelque chose qui ressemblait à un Z. Alors il avait gardé ce nom pour sa fille, il trouvait ça bien plus joli, et Maureen s'était appelée Maurice pour toujours. Maurice, ça fait rire les enfants. Kiko,
toi étais Maurice Bolum?
Mais ça n'était pas un sujet de honte, bien au contraire. Elle se souvient qu'elle se redressait de toute sa petite taille, qu'elle les toisait. « Oh papa, fin aller pas tout, pas tout pays, Maurice ça a la même. » Et puis un jour, il n'est pas revenu de la pêche. Elle a attendu sur le rivage, dans le vent, jour après jour, et même la nuit, jusqu'à ce que Lola lui dise « Ça suffit que ça, rentrez !» Pas rester dire qui espère. Elle refusait. Mais il a bien fallu obéir et se serrer dans le lit contre le mur pour ne pas entendre Lola ronfler. Comme s'il ne s'était rien passé. Tout normal, tout correct, quoi. Après, plus rien n'a été semblable. Lola est devenue méchante. Elle a battu Maurice pour un oui, pour un non. Elle s'est mise avec un autre homme, Zach, un bon à rien qui passait son temps à boire. Vautré dans le vieux canapé sur la terrasse, à regarder la mer. Maurice n'a pas connu sa mère. Elle est morte un peu après sa naissance. Et Tommy Sanson ne serait pas remarié, mais il a choisi cette femme, Lola Patten. Et Maurice l'a détestée dès qu'elle a su ce que haïr voulait dire. Parce que Lola lui parlait durement, lui pinçait le bras, l'obligeait à laver tout le linge de la maison, même comme Maurice devait traîner à l'école. Alors quand Tommy Sanson n'est pas revenu de la pêche, la vie à la maison est devenue impossible. Lola s'absentait pour aller travailler dans un hôtel au port. Et quand elle n'était pas là, Zach buvait sa bière. Il regardait Maurice d'un drôle d'air. Elle a compris très vite le danger. Quand un après-midi, il l'a attrapée par le bras, elle l'a tirée vers lui, en marmonnant des mots dégoûtants, des mots incompréhensibles. « Vini, nous fais un petit balai, un balai 4 yeux !» Comment on pouvait dire des choses comme ça à une enfant? C'est quoi un balai? Maurice s'est dégagé. Elle a couru dehors, elle s'est cachée dans les rochers. Le soir, quand Lola est rentrée, Maurice n'en a pas parlé parce qu'elle savait que Zach dirait des saloperies, que c'était elle qui avait voulu le séduire,
qu'elle s'était frottée à lui, qu'elle l'avait attiré vers le lit. Elle est allée se coucher sans souper. Elle s'est recroquevillée dans son lit, la tête contre le mur, en écoutant Lola ronfler. Après ça, les choses sont devenues compliquées. Quand Lola partait le matin pour le travail, Maurice s'en allait aussi avec son sac contenant les livres et les cahiers, comme si elle allait à l'école. Mais elle prenait le chemin de traverse et la bête à la campagne. C'est à ce moment-là que Maurice a commencé à grossir, peut-être dans l'idée que Zach n'aurait plus envie de la toucher. Elle était obligée de couper les jambes de son jean et d'échancrer son t-shirt, et même ainsi c'était trop petit et trop court. Les autres filles de l'école se moquaient d'elle. Quand elle la croisait, elle lui criait « Fatso !» ou « Grota !» Et même si cela lui mettait la rage au cœur, elle ne répondait pas. Alors elle a décidé que l'école c'était fini pour elle. Elle ne l'a dit à personne, elle a pris cette décision tout seule. Elle se levait tôt le matin, elle lavait son linge dans le bac en zinc, elle mettait un peu de riz et de bread dans un tissu au fond du cartable, comme si elle allait à l'école au bourg. Mais elle tournait le dos dès que Lola avait disparu, et elle commençait sa course à travers les broussailles sur les hauteurs, loin de la ville.
La Salette, c'était une belle église en pierre noire et charpente peinte en gris clair au milieu des cannes. Les portes étaient ouvertes depuis le matin et les fidèles se pressaient pour entrer. Le chœur était composé de jeunes filles créoles en robes sombres, et Maurice s'est placé un peu à l'écart. Sa robe faisait une tache de lumière comme une fleur d'arôme, mais elle n'avait pas de chapeau, et sa chevelure noire s'étalait autour de son crâne avec toujours la même insolence. Au premier rang de l'assistance, Maurice a vu une femme âgée, vêtue d'une robe bleue, qui l'observait en souriant. Un bref instant, elles ont échangé un regard. Maurice avait appris à se tenir devant les assemblées, à fixer ses yeux un peu au-dessus des visages, un peu à gauche, comme Michael lui avait dit de le faire. Quand la musique a commencé sur l'harmonium, au début de la cérémonie, Maurice a fermé les yeux. Elle a respiré en gonflant ses poumons pour prendre des forces. Les filles ont débuté lentement, avec des voix basses, en balançant leurs épaules, leurs pieds bien attachés au sol, et l'assistance aussi s'est mise à bouger, longuement, doucement, en accompagnant les voix du cœur. Maurice a ouvert les yeux. Elle a regardé Michael debout devant elle, au premier rang des fidèles. Il n'a pas eu besoin de lever la main. Au moment précis, quand la vague se retire, la voix de Maurice a pris le relais, en sourdine au début, puis de plus en plus fort. Elle a éclaté dans l'espace de l'église, tandis que les fidèles se levaient et frappaient dans leurs mains. Elle a chanté toutes les hymnes qu'elle avait apprises dans l'église de Bois-Noir, en anglais, les chants des travailleurs et les chants des voyageurs, les chants de la révolte et de l'amour d'Odetta Holmes, le chant des fugitives, les litanies à la Vierge Noire, l'hymne à la mère de Pergolèse, Henri Pourcel et bien sûr l'Ave Maria de Schubert. Mais ce chant-là était bien trop doux pour elle. Elle a continué avec la chanson de Kim Jong qu'elle avait écoutée sur le téléphone de Michael, Maria. Cette chanson, c'était son histoire. L'histoire d'une fille abandonnée et trop grosse qui se libère en criant son nom. Ave, Ave Maria. La musique de l'harmonium s'est arrêtée. Personne ne connaissait la chanson, mais bientôt l'assistance a repris son cri désespéré. Maria, Ave Maria. Maurice a chanté en coréen. Elle avait appris les paroles par cœur. Elle se souvenait de tout. Elle avait une mémoire exceptionnelle pour les langues. C'est ce que Michael avait dit. Il avait accepté cette chanson, même si ce n'était pas vraiment religieux, et que le clip de 200 livres racontait une histoire d'amour. Michael avait dit « L'amour, c'est cadeau du bon Dieu ». Enfin, Maurice a chanté une dernière chanson, le blues de Nena Moana en français et en lingala. Les paroles de la chanson parlaient aussi de sa vie, de l'amour pour son père perdu en mer.
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort.
La chanson s'est éteinte. Maurice était épuisée. Elle chancelait. Une jeune fille nommée Alix lui a apporté une chaise. Michael est venu aussi, et les fidèles sont sortis lentement de l'église, comme à regret. Dans le jardin de l'église, la femme que Maurice avait vue en entrant, assise au premier rang, l'attendait. À côté d'elle, des journalistes prenaient des photos, et quand Maurice a voulu s'éloigner, cette femme l'a rejointe, lui a pris la main. Elle avait un gentil visage, un sourire aimable. À côté d'elle, un homme aux cheveux gris s'est penché vers Maurice. Il lui a donné une carte de visite sur laquelle il avait écrit son numéro de portable. C'est le père Sancho qui a expliqué. C'est la princesse Christina de Suède. L'homme aux cheveux gris a dit, sa voix grave, son accent étranger, « Si vous voulez venir en Suède, à l'école d'Uppsala, nous ferons tout pour que ce soit possible. Vous pourrez étudier et enseigner la musique. » Et il a ajouté, « Je suis le consul de Suède, je pourrais vous aider pour les papiers. » Maurice a remercié, elle a fait sa révérence à la princesse, puis elle s'est sauvée pour rejoindre Michael et son taxi. Elle se sentait très fatiguée, un peu amère aussi. Elle avait hâte de s'allonger sur un lit et de dormir. Dormir, rêver peut-être. C'est ce soir-là que Maurice a choisi de devenir une femme. En enlevant sa robe blanche, elle a vu l'étoile rouge imprimée sur le tissu. Les filles de Baladirou avaient parlé de ça. Certaines étaient déjà réglées depuis longtemps. Maurice a lavé la robe à l'eau froide. Elle a bourré sa culotte avec du papier toilette et le lendemain matin, elle est allée au Winners pour échanger un pot de miel contre un paquet de tampons. La caissière a voulu faire une photo avec elle sur son téléphone. Les nouvelles allaient vite. Le même jour, la belle-sœur de Michael a montré la première page de l'Express, une image avec en sous-titre « La princesse et la diva ».
Maurice, Tommy, Michael, Aminata, Oria, etc. Autant de prénoms qui jalonnent le dernier livre de Jean-Marie Gustave Leclévio, Aver, les nouvelles des indésirables. Laissez-vous emporter sur le chemin de ces affamés envahis par un sentiment de révolte face à l'injustice. Ces textes ont été présentés par Jean et Armel.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
champ des pistes s'éleva sur la plaine. Juste après la pluie, dans l'odeur de la terre, là où surgissent les couleurs des vallées, là dans la nuque des ravins ondulés, je retiens l'écho dans le creux de ma main, au rayon de l'eau, à l'abri en chemin. Je planterai un arbuste à cette trace, je mêlerai son écorce à l'espace. La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier. La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier. Et quand tous les chants peu à peu résonnèrent, sous les fossiles, les racines s'éveillèrent, redécouvrant les contours oubliés d'un territoire peu à peu dessiné. Je retiens les traits invisibles des chemins, au rayon de l'air étourdi au matin. Je ferai mienne les histoires sur la lune, jusqu'à savoir les collines et les dunes. La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier. La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier. Bien fini, devenait le monde entier.
C'est dur de rester soi-même quand on peut être quelqu'un d'autre.
C'est dur.
Est-ce que si je danse comme ça, tu
l'air d'être là. Il y a quelqu'un en toi, ça c'est déjà ça. Si tu chantes cette mélodie-là, suis pas sûr qu'elle soit à toi. Mais c'est toi qui chantes ça, et nul autre que toi, et nul autre que toi.
Celui qui se vautre.
Tu feras pareil demain soir.
Tu t'en vas, tu lèves ton verre et à la vôtre.
Pourquoi t'es sorti si tard?
Même le sourire de celle dont tu regardes le hue.
Pas seulement croiser son regard.
N'empêche pas les doutes, t'as juste retardé le truc.
La nuit on ment, on prend des trains sans savoir où ça nous mène. La nuit on ment, on prend des trains à travers la plaine.
La nuit on dort pas, on danse. Et quand on danse pas, on pense. On cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas.
Un verre ou deux, on verra bien. T'es moitié vide, le verre à moitié plein.
Pourquoi t'es sorti si tard? Pourquoi t'es sorti si tard?
Tu ne comptes pas les moutons. La nuit, tu les dessines. Comme un saint exaspéré. T'attends que le petit prince se décide.
La nuit est enfilée à toute vitesse, on se doit, c'est dur en finesse. C'est en tirant sur des spiffs que les Loch Ness. On sait pas si on existe, on esquive, on enquête. Allez, encore une petite, on sera incorruptible comme Elliot Ness.
On esquive, on n'écoute pas par les sticks. Qui est-ce qui m'incite si la danse s'esquisse? On invite l'estime, on vise l'exquis. Comme des cons complets dans des phrases du style. À
la nuit, on dort pas, on danse. La nuit.
Quand on ne danse pas, on pense, on cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas.